1, 2, 1, 2. Et deux mesures piano, comme écho. Encore une fois.
Pour moi, une bonne mélodie est faite d'amour, de respect et de réflexion.
L'évolution formidable de la technologie va de plus en plus conditionner, influencer et infléchir les écritures musicales.
Et Francis Poulenc et Yanis Xenakis pour commencer cette émission Continent Musique. Bonsoir. Alors que plusieurs programmes de France Culture s'emparent du sujet Artistes et robots, c'est le titre d'une belle exposition qui est présentée depuis jeudi au Grand Palais à Paris, nous avons voulu réfléchir à ces questions d'écriture et d'écoute qu'on pourrait résumer par ce titre, Mélodie 2.0. Et après, pour en parler ce soir, mais vous êtes là, François Pachet, musicien, vous êtes guitariste, ingénieur aussi, vous dirigez un laboratoire de recherche sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la création musicale. Vous travaillez notamment sur Flow Machines, qui a permis d'enregistrer Hello World, le premier album pop enregistré entièrement avec l'aide d'une intelligence artificielle. Il y a aussi des vrais musiciens, on aura l'occasion d'en entendre un tout à l'heure. François Pachet, vous publiez aussi Histoire d'une oreille, un livre qui est édité chez Buchet Chastel, où vous tentez de comprendre les processus intimes et combinatoires de la musique. Ça parle autant de vous, de votre enfance, de la découverte de certaines musiques que des accords de septième ou des quintes diminuées. C'est vraiment un livre passionnant. Mais on va commencer, si vous le voulez bien, par un exercice de mémoire. La da da ta ba fa ba da ta ta da la 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 ba ba da ba da ba te da ba ba da ta ta da ra da da ta da. Je mourrai. Dans une voiture carbonisée. La portière ne voudra pas s'ouvrir. Et je hurlerai. Tu apprendras ma mort. Journaux par la poste. Alors, et vivante à la paume de tes mains. Alors,
Alors tu voudras recommencer. Tu auras une envie folle, immédiate. De recommencer. Et tu sauras de quoi je parle. En ce moment précis. Alors,
Remember, un des premiers 45 tours de Jacques Higelin enregistré en 69 chez Sarava, avec Areski Belkacem à ses côtés. Jacques Higelin dont on a appris la mort hier. Je suis mort, qui dit mieux, chantait-il. François Pachet, Jacques Higelin, il s'inscrirait comment dans votre histoire d'une oreille?
C'est une bonne question. Oui, j'écoutais ça attentivement et je me disais, au fond, la première qualité de cette chanson, c'est qu'elle appelle à une écoute attentive, ce qui n'est pas le cas de toutes les chansons. Il y a des chansons qu'on n'a pas envie, dans lesquelles on n'est pas envie de rentrer, qu'on peut écouter sans vraiment... Et là, je sais pas, il y a quelque chose dans le probablement un des talents d'Higelin, c'est probablement ça, forcer l'attention, ou la forcer dans un sens positif, évidemment. Il y a des silences, par exemple, dans les paroles qui sont très astucieusement orchestrées, dans le sens où il arrive à créer le contexte qui fait que lorsqu'il s'arrête de parler, même la musique s'arrête presque à certains moments, eh bien, on est quand même l'oreille tendue pour savoir ce qui va se passer ensuite. Et ça, c'est très mystérieux. Je sais pas comment les gens font ça. Je sais pas où ça se passe, mais ça existe, ça c'est sûr, dans ce genre de chansons.
Est-ce que dans la composition, puisque vous êtes très attentif à la mélodie, aux notes, à la façon dont une chanson fonctionne, ou alors aussi dans la superposition des sons, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que Jacques Higelin chante vraiment au creux de notre oreille, alors que la voix d'Areski est beaucoup plus lointaine. Qu'est-ce qui a retenu formellement, disons, Votre attention ici, François Pachet?
Moi j'ai une oreille plutôt harmonique. Alors la première chose qu'on remarque, c'est qu'harmoniquement il se passe pas grand chose, donc on est obligé de chercher ailleurs, dans la structure, et au fond dans l'histoire. C'est aussi une histoire qu'on a envie de découvrir, de connaître. Au début on se demande ce qui se passe, et puis oui, on finit par comprendre, et ça continue. Et puis cette fin aussi est assez dramatique. Oui, la structure, c'est probablement ce qu'il y a de plus mystérieux dans une chanson. C'est quelque chose que je pense qu'on dit pas assez, mais c'est très difficile de chanter 3 minutes. Ou je sais pas combien cette chanson dure, mais disons autour de 3 minutes, en gardant l'attention entière des auditeurs. C'est un miracle quand ça arrive, en fait. Et pour y arriver, en effet, tous les moyens sont bons, des moyens plus techniques, de l'harmonie, de la mélodie, peut-être des paroles ou des sons extravagants, mais aussi, en effet, la manière d'agencer tout ça dans le temps, de prendre le temps, de pas ennuyer tout en évitant d'ennuyer. Donc je pense que Higelin, qui faisait beaucoup d'improvisation aussi dans ses concerts, et qui je pense devait aimer ce jeu avec l'attention de l'auditeur, il faisait des concerts très très longs, ce qui prouve que les gens s'ennuyaient pas déjà, et ça c'est quand même remarquable, c'est très très fort, et c'est, je pense, très mystérieux.
On va voir ça pendant toute cette heure, ce qui fait qu'une musique retient notre attention, ce qui fait que l'on s'en souvient. Qu'est-ce qui fait qu'on aime une musique? Ce sont vraiment tous ces procédés. Et puis plus tard, on parlera de peut-être comment faire la musique avec des ordinateurs, ou peut-être comment les ordinateurs pourraient être amenés à en faire par eux-mêmes. Mais on va remonter un peu le temps. Je vous propose qu'on se plonge, François Pachet, dans votre histoire d'une oreille et dans votre premier disque, 33 tours. Ça faisait comme ça.
Vous pensez que vous étiez venu ici ce soir pour sit back and take things easy while we did all the work. But we're going to ask you to help us sing this one. Michael, row the boat ashore.
Hallelujah.
Michael, row the boat ashore.
Hallelujah.
Get the idea. All you do is come in on the hallelujah. Now clear out your throat and try singing that.
Hallelujah.
Oh, I can hardly hear you. Try it again.
Hallelujah.
That's it. Then I sing another line. La, 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 la. You sing. Hallelujah. Try that.
Hallelujah.
Say, got any high tenors here tonight?
sopranos, who can reach up here? Hallelujah. Try it. Hallelujah. Hey, we got a few tenors. Pretty good. Now you sing high basses. Hallelujah. Okay, let's put it all together, see how it sounds. Don't let your neighbor look at you peculiarly if you sing too loud. You kick him in the ribs and get him singing too. Michael, row the boat ashore.
Hallelujah.
Michael, row the boat ashore.
Hallelujah.
The Weavers and Michael, row the boat ashore. Hallelujah. Qu'est-ce qu'on entend ici, François Pachet, qui, vous le dites, vous enseigne tout sans que vous le sachiez sur les bases de l'harmonie.
Ouais,
parce que
ouais.
Vous écrivez ce morceau, il est un peu pauvre en fait.
Absolument, il est pauvre. Bon, là on est dans les années 60, fin des années 60, 70, début des années 70. J'ai voulu parler de ce morceau parce qu'en effet, je pense que c'est les morceaux qu'on a, ce genre de morceaux qu'on a tous entendu plus ou moins, auxquels on a été exposés, comme on dit en psychologie, sans forcément le savoir. Bon, moi j'écoutais ce disque de manière très répétitive, il n'y a pas beaucoup de disques aussi, il faut le se rappeler à l'époque. Et en effet, en les réécoutant, d'abord je pense à vos ingénieurs du son à France Culture, ils aimeraient pas du tout ce genre de prise de son très sommaire, live, avec des moyens probablement limités.
Et Julien Doumain, qui est aux commandes ce soir, fait signe, non, ça a l'air de lui plaire,
ah,
comme prise
bien,
de son, il apprécie.
Et donc ça met en valeur en effet ces harmonies très sommaires, au banjo, à guitare, qui sont des successions d'accords de base, des 1, 4, 5, comme on apprend dès qu'on fait de l'harmonie un petit peu, et qui, j'ai voulu en parler parce que c'est ça la base, c'est comme quand on apprend à A, B, A, dire papa, maman, j'ai faim, j'ai soif, donc c'est les premières choses qu'on apprend, et oui, j'ai voulu en parler pour montrer comment ensuite toute l'oreille pouvait se construire et disons connaître d'autres émotions, plus sophistiquées, peut-être plus riches, mais que tout ça dépendait tout de même de cette base-là, qu'on quelque part on ne doit certainement pas oublier.
Alors vous n'avez pas oublié où vous l'avez acheté ce disque, ou alors on vous l'a offert?
Oui, c'est ma grand-mère qui me l'a offert parce que l'on habitait aux États-Unis, donc elle qui n'était jamais allée, elle pensait que, ayant habité aux États-Unis, forcément ça devrait me plaire. C'est une idée fausse, mais bon, néanmoins, comme c'était ma grand-mère, je me suis attaché à ce disque.
Voilà, ça c'est un des plaisirs de ce livre, L'Histoire d'une oreille, c'est qu'on comprend aussi que les musiques, ben voilà, elles sont associées aux souvenirs des gens avec qui vous l'avez écouté, dans une voiture,
oui, tout à fait.
Ou d'un souvenir de voyage, voilà, il y a énormément de choses qui sont convoquées à travers quelques notes. Tout remonte à l'enfance, Orléans, au conservatoire, où vous situez votre première émotion musicale, François Pachet, c'est dans un détail auquel votre professeur et les autres élèves ne prêtent pas attention. Et ce détail, vous l'appellerez Escate. Qu'est-ce qui, dans ce détail à Orléans, va bâtir la cathédrale de votre édifice sonore, de votre goût?
Exactement, la cathédrale. D'ailleurs, ça se passait derrière la cathédrale d'Orléans, qui est une très belle cathédrale. Et ben, moi, je me souviens de cette émotion, presque comme une jouissance, presque sexuelle, on pourrait dire, tellement c'était fort, tellement la musique était ennuyeuse avant. Et tout d'un coup, elle se révélait comme une source de grande satisfaction. Et j'ai voulu nommer cette émotion, et j'ai pas voulu la réduire à un effet technique. Techniquement, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle des cartes suspendues, mais bon, c'est un effet où on fait retarder un peu l'arrivée d'une tierce en la faisant un peu attendre, n'est-ce pas? Mais j'ai pas voulu parler du procédé technique, j'ai voulu parler de l'émotion qu'elle suscitait en moi, et je me suis aperçu, ce que tout le monde sait, c'est qu'il n'y a pas de vocabulaire, il n'y a pas de langage au fond pour décrire les émotions musicales. On peut décrire encore une fois les choses techniques, mais pas ce que l'on ressent. Et dès le début de l'entreprise de ce livre, je suis parti de cette constatation. C'est que comme on n'avait pas de langage pour parler des émotions musicales, au fond, on pouvait pas dire grand-chose. Et donc, je me suis aperçu que si je voulais raconter cette histoire, il fallait aussi que j'invente un langage pour pouvoir nommer les choses afin d'avoir un processus un peu constructif. Donc, en effet, c'est le premier concept. Escate, c'est l'émotion particulière créée par une carte suspendue de ce type-là dans cette partition de Noël Gallon.
Est-ce que c'est-à-dire que quand vous entendez une escale, quand vous l'identifiez, finalement vous retrouvez le plaisir originel de la musique, et donc même si ça a lieu dans une chanson que vous n'aimez pas trop, d'un coup vous entendez ce phénomène et vous avez du plaisir?
Alors du plaisir aujourd'hui, pas forcément, parce que beaucoup de choses se sont passées, tout ça c'est assez dilué, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées, mais en tout cas ça déclenche en effet toute une série de souvenirs Et mon attention va peut-être se porter un petit peu là, un petit peu, peut-être de manière microscopique d'ailleurs, mais néanmoins, disons, la trace de cette émotion d'Orléans d'il y a, je sais pas, j'ose pas dire combien de temps, une quarantaine d'années, eh ben, elle est toujours là, elle fait partie de l'oreille.
Alors, ce qui est très étonnant dans votre livre, François Pachet, c'est que si vous allez faire des études plus tard au Berklee School of Music de Boston, donc vous allez suivre l'enseignement d'un très grand professeur de guitare, vous vous présentez quand même toujours comme un autodidacte, comme quelqu'un qui résout les problèmes petit à petit. Vous inventez tout ce glossaire personnel avec la misette, par exemple, ou la sébimine. Ça va interroger et intéresser beaucoup de musiciens. Qu'est-ce que vous appelez l'optal, par exemple?
À l'optal, ça, c'est vraiment un truc tout à fait...
Le nom est génial.
On peut s'amuser à faire une analyse rétrospective de l'origine de ces mots qui sont inventés, que j'ai inventés avec des arguments, disons, logiques. Et ensuite, je les ai un peu abîmés, comme les mots s'abîment, vous savez, dans la langue, mais on s'use, se transforme. Non, l'optal, c'est quand on entend quelque chose, et si vous voulez, on se livre, moi je me livre, et je pense beaucoup de gens le font, je pense que vous aussi, le fait à des jeux intérieurs, des rêveries intérieures lorsque vous marchez, lorsque vous n'écoutez pas de musique, vous rejouez d'une certaine manière les mélodies, par exemple, la tête. Et je me suis souvent livré à ce jeu de les rejouer en essayant de les modifier pour voir si je pouvais faire mieux, par exemple, ou faire autrement. Et lorsque je me livre à ce jeu et que je n'y arrive pas, à ce moment-là, j'ai un sentiment d'optal, c'est-à-dire, au fond, la mélodie ou la chose, elle est optimale. On peut pas faire mieux, disons, sans tout casser, sans faire vraiment quelque chose de complètement différent. Et pour moi, c'est une émotion. C'est-à-dire que lorsqu'on se rend compte que l'objet que l'on contemple, qui d'ailleurs pourrait être un objet aussi visuel, hein, eh bien, il est parfait dans le sens, il ne peut pas être modifié sans être moins bon.
C'est une notion qui a intéressé le trompettiste et jazzman Médéric Collignon, qui a participé au disque Hello World, un disque qui a été fait avec l'intelligence artificielle à laquelle vous avez participé, François Pachet. Mais écoutez ce qu'en pense Médéric Collignon.
C'est le plaisir de chercher, c'est le plaisir de trouver, évidemment. Mais lorsqu'on a trouvé, est-ce que ça n'est pas seulement une des marches de l'escalier qu'on peut franchir? C'est un merveilleux choix intellectuel. Je trouve un système harmonique. Je vois que cela marche avec, je sais pas, des substitutions ou alors des mouvements. Soyons simples, des mouvements parallèles. Les voix vont dans le même sens. Si je donne un exemple, à partir du moment où j'utilise une note et j'utilise sa carte juste do, fa, si bémol, mi bémol. Voilà, j'ai un accord, puis un autre accord. Ce sont des mouvements parallèles. La mélodie, elle fait et tout ça va aller dans le même sens. Ça, c'est un plaisir. Mais peut-être que je peux aller plus loin. Chaque accord devient un monde. Donc là, ça devient une pensée fractale. Donc j'oublie l'origine de ce que je viens de composer, c'est-à-dire les mouvements parallèles à partir d'une mélodie. Puis chaque monde devient une part de une planète, un truc, un monde. Et puis à partir de cela, ça devient une forme, puisqu'à partir de ces planètes, je peux recréer encore un complexe dans ce monde-là. L'harmonie appelle une autre mélodie, peut-être, que je pourrais filer à un camarade. Donc nous voilà avec un contrepoint à trois niveaux, quoi.
François Pachet a une autre théorie, ou en tout cas, il développe une autre idée dans son livre, qui serait celle d'une musique qu'on se fait seul dans sa tête. C'est-à-dire qu'entre deux accords, il invente des solutions qui n'existent pas, en fait. Il est persuadé d'entendre un mi entre un la et un si mineur, je ne sais pas. Il est persuadé de l'entendre. Or, il s'aperçoit qu'en fait, il n'est pas là, ce mi. Mais c'est lui qui l'a recréé, c'est lui qui l'a inventé. Est-ce que, Médéric Collignon, ça vous arrive aussi, comme ça, d'avoir une musique qui n'existe que dans votre tête?
Absolument. Et ça, c'est une sorte de rêve. Des fois, je crois avoir entendu... et vu ou joué des choses, mais en fait, je m'aperçois qu'en creusant, ça vient d'un rêve passé, ça vient d'une chose qui n'existe pas. Un rêve, ça n'existe pas, c'est une autre forme de poubelle. On évide, on nettoie le cerveau, c'est un paix de l'esprit, j'apprécie souvent ça, plouf. Et donc, ce sont des choses qui n'existent pas parce qu'elles sont désordonnées, elles sont inclassifiables. Au niveau temporel, vous avez l'impression de vivre 7 minutes de musique parce que vous entendez le morceau du début jusqu'à la fin, ça m'est arrivé, genre Marst de Gustav Holst. J'étais dans l'espace, je volais, j'étais entre les monts et je sais pas quoi, d'une planète inconnue. Donc j'entends le début et la fin. 7 minutes et quelques versions de je ne sais qui. Mais c'est faux. C'est, tout est faux, c'est un rêve. Un rêve, le temps n'existe pas. C'est d'ailleurs ce que j'ai dû vivre, ces 20-30 secondes en fait, de réalité physiquement. Et donc, alors si ça, c'est pour les images, les machins, évidemment pour les sons, il y a de la place pour croire que l'on a entendu, qu'on en a entendu un mi, un accord ceci, entre tel ou tel état, entre tel moment. Mais ça m'arrive tout le temps. Et je trouve ça tout à fait naturel, tout à fait normal.
Et oui, François Paché, c'est complètement normal d'entendre des notes qui ne sont pas là pourtant.
Ben oui, oui, c'est normal. Je suis très content que Médéric Collignon s'exprime de cette manière. Et ça m'évoque au fond le fait que ce livre que j'ai écrit, ce sont des minutieuses rêveries. C'est une expression que je crois qu'avait utilisé Francis Marmande, qui écrivait beaucoup sur la musique, sur le jazz.
Oui.
Et que ces rêveries, si vous voulez, elles accompagnent au fond tous les auditeurs attentifs de musique, les auditeurs et les musiciens. Et voilà, quand on écoute la musique, on joue dans sa tête, au fond même quand on n'entend pas de musique. Et la deuxième chose que ça me fait penser, c'est que mon grand-père, qui était quelqu'un d'assez austère, lorsque son fils, mon père, lui disait qu'il s'ennuyait, il lui répondait « Mais écoute, tu n'as qu'à avoir une vie intérieure ». Voilà. Ça a été le slogan de la vie de mon père et probablement de la mienne et de beaucoup d'autres gens d'ailleurs qui se sont intéressés à cette histoire d'avoir une vie intérieure. Mais ce que ça raconte tout ça, c'est que écouter de la musique, ça produit une richesse intérieure absolument extraordinaire. C'est ça que j'ai voulu dire. Et que ce sont pas simplement des rêveries métaphysiques ou des songes un peu psychédéliques. Non, c'est des rêveries très très précises, combinatoires, quelquefois passionnantes, dans lesquelles on peut s'enfoncer et vivre au fond.
Alors je reviens à cette idée d'Optal, puisque elle va parcourir le livre et notamment à la fin, c'est assez amusant. Vous racontez qu'il y a une expérience qui est pourtant désagréable au départ. C'est dans le métro, une musicienne roumaine qui joue Sous le ciel de Paris à l'accordéon, mais elle tronque la mélodie, elle ne la joue pas bien. Et au début, ça vous déplaît, ça vous heurte, parce que mais elle fait exprès. Et finalement, ça vous intéresse beaucoup plus.
Mmh. Oui, c'est vrai. Souvent, il y a des musiciens. Il y a deux types de musiciens dans le métro. Il y a des musiciens qui ont la licence officielle que j'ai d'ailleurs obtenue. J'en étais très fier. Et ceux-là, on a le droit de jouer que dans les couloirs. Et il y a les autres illégaux qui eux jouent dans les wagons à la sauvette. Et il y a beaucoup de musiciens, en effet. Qui joue dans les wagons de l'accordéon souvent et qui joue jamais les mélodies comme il faut. Et en effet, c'est très fréquent. Et au départ, lorsqu'on est musicien, on est énervé. On dit mais quand même, il pourrait apprendre le rythme, il pourrait apprendre que cette mélodie c'est à 3 temps et pas à 4, qu'il y a un nombre, il y a 8 mesures et pas 7. Et lorsqu'on se laisse aller un peu à l'écoute, on se rend compte au fond c'est très inventif ce qu'ils font. Et c'est très intéressant parce que, en effet, ils essayent de casser la mélodie, d'en faire une autre, et ils la soumettent à ce procédé qui est le procédé qui permet d'avoir cette expérience optale. Et c'est pour ça que ça devient, en effet, une expérience fascinante de les écouter.
Like that, it doesn't really matter what chords I play, what words I say, or time of day. It is as it's only a long song.
Si vous écoutez cette chanson, vous aurez peut-être l'impression que les accords ne vont pas. Mais nous les avons écrits comme ça, écrit George Harrison en 67, c'était pendant les sessions de Sgt Pepper, et puis ce morceau, cette chanson « Only a Northern Song » paraîtra plus tard dans la bande-son du film « Yellow Submarine ». Qu'est-ce qui vous intéresse profondément, François Paché, dans cette chanson qui parle presque d'elle-même ?
Oui, c'est vrai. D'abord, c'est vrai que quand j'ai eu ma période de fascination pour les Beatles, comme des dizaines de millions.
J'ai l'impression que c'est pas une période, c'est toute une vie.
Ouais, je suis calmé un peu. Mais quand on découvre les Beatles, on se met, malheureusement, le répertoire est limité, donc on se met à écouter de plus en plus attentivement ce que l'on a à disposition, la moindre chanson, etc. Et là, dans cette chanson, effectivement, il y a des choses bizarres qui se passent. il y a des harmonies étranges, d'ailleurs, et en effet soulignées par le texte. Et donc c'était une chanson qui était une source de mystère pour moi, et de grand plaisir, en fond, un peu inépuisable. Et ce que ça révèle aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait chez les Beatles et chez beaucoup de musiciens un souci constant d'être différent, d'innover, de faire des choses nouvelles dans tous les domaines, dans toutes les dimensions de la musique, mélodie, harmonie, timbre, rythme, etc., etc. Et cette chanson qui date, je crois, de 67 ou cette période-là, on est vraiment un très bon exemple. C'est-à-dire qu'il pouvait pas s'empêcher de faire des choses bizarres, non pas pour être bizarre, mais parce que voilà, il voulait chercher tout le temps. C'est, au fond, c'est une sorte de chercheur, tous ces gens-là.
Mais les Beatles vont devenir, vous dites, une sorte de religion, mais une religion sans espoir.
Mais oui, c'est décourageant d'avoir des artistes aussi extraordinaires. D'ailleurs, on peut avoir la même impression en écoutant du Mozart, en lisant du Platon, ou en voyant des monuments grandioses dont on se dit mais je pourrais jamais faire mieux, même faire pareil j'y arriverai pas, mais faire mieux encore moins. Et donc il y a quelque chose de décourageant en effet, mais qui peut être aussi extrêmement encourageant si on sait au bout d'un moment, si on comprend que voilà, ce qu'on doit faire c'est pas la même chose, on doit inventer autre chose ailleurs.
Bon, puis ce qui peut être décourageant aussi, c'est l'incommunicabilité, hein, puisque vous racontez, vous allez à Montréal, vous découvrez l'existence d'un newsgroup, c'est-à-dire un groupe d'échange sur Internet qui est dédié aux Beatles, et puis vous vous intéressez vraiment à la musique, alors vous voulez parler de l'accord de 13e, qui est très important chez McCartney, mais alors les gens s'en fichent, ne vous répondent pas du tout. Il y a une incommunicabilité aussi à cet endroit-là.
Oui, c'est vrai. Et j'ai remarqué ça, que souvent des amis proches, musiciens, dont on aura tendance à penser que ce sont les meilleurs interlocuteurs au fond pour parler de musique. Au fond, plus ils sont proches, plus ils ont les mêmes goûts que moi, plus ils aiment les mêmes choses, plus c'est difficile et en effet de faire partager les raisons pour lesquelles on aime les choses. C'est pour ça qu'on s'engueule souvent entre musiciens. C'est qu'on aime la même chose mais jamais pour les mêmes raisons.
Pour extrait, mais il faut aller plus loin, puisque ce Lotus de Baden-Powell, c'est vraiment une très belle pièce, que vous rapprochez d'ailleurs, François Pachet, des préludes de Jean-Sébastien Bach, carrément.
Oui, mais ça c'est explicite même, je pense que Baden-Powell avait ça en tête de manière très claire. Il voulait faire une sorte de pastiche, probablement, d'un prélude, ou de quelque chose de ce que lui pensait en tout cas être un prélude de Bach.
Alors la musique brésilienne, ça, ce morceau, vous le découvrez dans un disque qui, dans sa version française, s'appelle Aquarelle du Brésil, édité en France en 78. Vous en décrivez avec détail la pochette, l'ordonnancement des morceaux. Et quelle va être l'importance, puisque la musique brésilienne va revenir très souvent, de la guitare et de Baden-Powell dans l'histoire de votre oreille?
Oui, c'est très important. C'est un disque d'ailleurs édité par Eddie Barclay, ce qui montre qu'il avait beaucoup de goût et vraiment qu'il n'y ait aucune barrière, parce que Baden-Powell n'est pas devenu un grand... n'a pas, je pense, vendu beaucoup de disques. C'est un disque collector qui n'existe plus, en effet, avec des morceaux extra... Mais ce que je voulais raconter là, c'est que le fait de se mettre à jouer de la guitare, etc., fait qu'on écoute les choses autrement. Et lorsque j'ai commencé à jouer de la guitare, encore une fois, comme de beaucoup de gens, que j'ai découvert Baden-Powell, j'ai eu ce sentiment, en écoutant ça, j'ai dit, mais bon Dieu, je ne savais pas qu'on a le droit de faire des choses pareilles, qu'on pouvait faire des choses aussi intéressantes, aussi inventives, aussi libres. Donc c'est ce sentiment. Petrucciani avait parlé de ça lorsqu'il avait entendu pour la première fois My Favorite Things de Coltrane. Il avait dit, mais je savais pas qu'on pouvait faire les choses pareilles, aussi fortes, aussi puissantes, aussi nouvelles. Donc c'est un peu ça, ce sentiment. Donc j'ai essayé de raconter ça. Et j'ai voulu aussi, j'ai parlé aussi beaucoup de Roland Diens, qui était un guitariste, peut-être un des plus grands guitaristes classiques au fond de l'histoire aujourd'hui, qui est mort malheureusement l'année dernière. et que j'ai eu la chance de rencontrer. J'étais un de ses premiers élèves à Meudon. Et il se trouve que lui aussi était fasciné par le Brésil, il en revenait. Et ça a été d'ailleurs un des premiers guitaristes à importer, au fond, la science de la guitare brésilienne en France. Et grâce à lui, j'ai pu apprendre beaucoup de choses et écouter tout ça autrement.
Et il insiste beaucoup sur la pulpe.
Oui, la pulpe, oui, la pulpe du doigt, de l'index, pour donner un son à la fois chaud et, le cas échéant, plus agressif.
France Culture.
Continent Musique.
Mathieu Conquet.
Pierre Vassiliu, c'était l'adaptation, disons, légère du Partido Alto de Chico Buarque. Et les accords de début, François Pachet, vous allez passer beaucoup, beaucoup de temps à comprendre comment ils fonctionnent. Cette fascination pour la musique brésilienne, elle vient aussi de son mystère, en fait.
Ben oui, moi je faisais la guitare classique, encore une fois, comme tout le monde, je dirais. Et puis je tombe sur ce disque qui est sorti dans les années 70, que ma mère m'a acheté. Je trouvais ça génial, extraordinaire, je le jouais. Je me disais, c'est de la guitare ce que j'entends, j'ai une guitare, donc je devrais bien y arriver. Et j'ai essayé pendant, je dirais, au moins une trentaine d'années, de restituer le son qu'on entend sur ces accords avec ma guitare sans jamais y arriver. Et j'ai fini par comprendre, après des années d'expérience avec les Brésiliens, que voilà, en effet, la science de l'accord brésilien, c'est quelque chose d'assez subtil et riche. Mais ça m'a beaucoup motivé, ça m'a poussé à écouter les choses autrement, de manière peut-être plus analytique, à essayer de comprendre comment ces harmonies fonctionnaient. Donc c'était un formidable moteur, ce disque.
Voilà, comment trouver cette neuvième qui est bien cachée dans ce premier accord de qui c'est celui-là. Mais à force de chercher, de comprendre comment les choses sont faites, vous en arrivez à cette conclusion. Je ne sais plus écouter autrement. En quoi est-ce que votre professeur d'écriture au conservatoire, qui était un spécialiste de musique baroque, plus tard vous permettra de retrouver cette naïveté originelle, puisqu'à un moment, vous n'arrivez plus à écouter autrement qu'en analysant.
Oui, ça c'est très mystérieux. Et d'ailleurs, je voudrais revenir un peu entre parenthèses pour la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est évidemment pas pour en raconter ma vie qui n'intéresse personne d'autre que moi et mes enfants peut-être, mais c'est parce que j'ai voulu raconter comment une oreille pouvait se construire par une succession d'émotions. Et c'était une histoire que j'aurais voulu lire et que je n'ai jamais trouvée. Donc je me suis dit, je vais l'écrire.
Mais c'était pour ça qu'on écrit les livres.
Voilà. Mais c'était pas pour raconter ma vie, encore une fois, qui a aucun intérêt. Mais donc j'ai essayé de raconter des émotions dont je pense qu'elles sont partagées. Et en effet, oui, quand on fait de la musique et ensuite du jazz, ou de la musique brésilienne puis du jazz, on apprend à écouter d'une certaine manière et on gagne en nuance harmonique par exemple, et on perd, il y a des choses qu'on n'arrive plus à écouter parce qu'on les écoute, on les perçoit comme si elles étaient exactement les mêmes. On a par exemple des renversements d'accords en jazz, si on fait pas très attention, c'est la même chose. Et moi qui suis un peu nostalgique, un peu proustien, j'ai voulu retrouver ces émotions d'enfant dont il me semblait qu'elles avaient disparu. Et en faisant de la musique baroque, où on revient à des harmonies beaucoup plus simples, mais où on fait beaucoup plus attention en effet aux renversements, à la manière dont ils sont réalisés, eh ben je suis arrivé, il me semble, à retrouver des émotions d'enfance. C'était extrêmement touchant et satisfaisant au fond. C'est-à-dire que ça montre que au fond les émotions musicales dont on pense qu'elles sont disparues, non, elles sont toujours un petit peu là quelque part.
Ce qui est surprenant aussi à vous lire, François Pachet, c'est que les émotions musicales, on a l'impression qu'elles viennent presque d'un plaisir d'intellect. C'est-à-dire, je comprends comment la musique fonctionne, j'arrive même à la rejouer, à refaire un pattern de Prince, par exemple, comprendre les petites intervalles, les croches qui sont faites. Mais vous parlez, en tout cas pas tout de suite, des plaisirs sensuels qu'on peut avoir avec la musique, c'est-à-dire aimer la qualité d'un son. Et ça, c'est des choses, on a l'impression que ça arrive très très tard.
Oui, c'est arrivé tard, oui. On pourrait me reprocher ça, mais je pense.
Mais c'est pas un reproche, c'est.
Non, mais je me reproche à moi-même parce que, en effet, je suis peut-être passé à. Mais je crois qu'il y a deux sortes d'oreilles. Il y a des oreilles synthétiques, des oreilles analytiques. Il se trouve que pour certaines raisons, j'étais plus dans la vision analytique et puis.
Vous
après,
avez l'oreille absolue?
Non. Enfin, ça dépend. Si je fais beaucoup de musique, oui, puis ça, donc elle est absolue, mais de manière relative, disons.
Enfin, vous savez reconnaître un do d'un mi, quand même.
Ouais, plus ou moins, ouais.
Moi, je vous propose une analyse en direct d'une musique que vous ne connaissez pas encore, du côté du Brésil. L'enchantement ici vient d'un certain Tim Bernardes, dont je ne saurais trop vous recommander le disque Recommencer, Recommencer. Alors, aperçu, analyse après une première écoute, François Paché.
Oh, vraiment, je ne suis pas du tout critique musicale. Non, mais j'admire les Brésiliens dans leur capacité d'inventer toujours, de jamais se lasser de ces styles, de les mélanger. Vous savez, au Brésil, ils disent que leur culture, ça consiste ils appellent ça l'anthropophagie. Il y a eu un manifeste dans les années début du XXe siècle. C'est-à-dire que l'anthropophagie, au sens où ils mangent littéralement les cultures et puis ils les redigèrent, ils en font autre chose. Alors ça, c'est fascinant, surtout quand on vient de France où on nous apprend plutôt à faire le contraire, à respecter les choses, à les jouer telles qu'elles doivent être jouées, etc. Alors, les Brésiliens n'ont aucun état d'âme, ils mélangent tout. Et ça, c'est vraiment une source extraordinaire de création. Moi, j'entends plein de choses. J'entends cette basse qui descend. Ça me rappelle un peu les Beatles. Ça me rappelle un peu Penny Lane à un moment. Il y a une marche harmonique assez standard, mais il y a quand même un accord par temps quasiment. Donc, les Brésiliens ne peuvent pas s'empêcher de mettre des harmonies partout. Je crois que c'était Georges Moustaki qui disait que les Brésiliens connaissaient tous les accords possibles, mais ils étaient incapables de jouer un accord parfait. C'était trop simple. Donc, tous les accords sont riches. Il y a une richesse de tous les instants, si vous voulez, qui est toujours là, qui est peut-être un des traits de cette musique. Il y a ces glissando.
Des effets de vertige, hein, quasiment. C'est assez étonnant.
Qui sont anachroniques, mais qui sont, voilà, c'est typiquement un truc brésilien de mélanger avec une espèce de balade un peu ancienne, avec des sons modernes. Voilà, c'est très inventif, c'est vraiment délicieux, et c'est heureusement qu'il y a les Brésiliens pour mélanger, pour suggérer. Alors, ça veut pas dire que tout est forcément intéressant, mais.
Davanti al tuo seno ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa, prendimi l'altra metà, oggi ritorno da lei, primo maggio su coraggio io.
Umberto Tozzi, Ti Amo, c'est assez irrésistible. Je vous cite François Paché. Le motif à l'origine du plaisir partagé par toute la planète de cette année 1976 repose sur une seule note, et c'est cette note n'est autre que la tonique de la tonalité de base. Ti Amo est fondé uniquement sur le plaisir de la séquence Do, La mineur, Ré mineur, Sol 7, dont il fait ressortir le plus de jus possible avec le minimum d'artifice. Ça, c'est très intéressant aussi, c'est que vous vous posez singulièrement la question du bon goût dans ce livre, François Paché.
Bah oui, je sais qu'il y a des gens qui vont hurler en écoutant, même sans écouter, la simple évocation de cette chanson, parce qu'ils ont dû l'entendre, la subir, comme on dit dans les voitures.
Il y en a qui l'ont peut-être adoré aussi.
Il y en a qui l'ont adoré. Moi, je ne sais pas si je l'aime ou pas, mais en effet, je me suis rendu compte que cette chanson qui a tout de même plu à des millions de gens, probablement, qu'on disait autrefois un tube planétaire, je sais pas si c'est toujours, mais Il doit bien y avoir quelque chose qui fait que les gens aiment cette chanson. C'est pas simplement parce qu'il y a des gens qui ont décidé de la passer à radio. Et j'ai essayé de comprendre ce que c'était. Il y a en effet un plaisir, je pense, disons, évident, dans une certaine, voilà, une certaine utilisation de ces harmonies, de cette mélodie très répétitive, de ce motif qui se répète sans jamais exactement le même, etc. Et qu'est-ce que c'est avoir du goût? Je pense qu'avoir du goût, c'est ne pas avoir de goût, c'est-à-dire de goût au pluriel, c'est-à-dire ne pas avoir décidé une fois pour toutes dans sa vie qu'on aimait Mozart, les Beatles et Francis Poulenc, point final. Mais avoir du goût, c'est au fond être capable d'en changer, être capable de trouver quelque chose d'intéressant à manger un peu dans toutes les manifestations musicales, quelles qu'elles soient, aussi bien de la musique savante que de la musique dite populaire.
Voilà, et vous parlez aussi volontiers de Jean-Sébastien Bach que de Barry Manilow, hein, dont vous, ouais, vous avouez que, voilà, Could It Be Magic, on a beau savoir que ça reprend le prélude en do mineur de Chopin, bah c'est quand même, il y a quand même des trouvailles.
Il y a une trouvaille formidable.
Voilà. C'est laquelle?
Il faudrait un piano, mais c'est une note, c'est une différence d'une. Non, on m'a dit que je n'avais pas le droit d'utiliser le piano qui était derrière moi. Mais bon, je l'explique un peu dans le livre. Disons, dans la version de Chopin, il y a une harmonie qui est très en mineur harmonique, c'est-à-dire qui reste constamment sur le mineur harmonique. Et chez la version Manilow, il y a un moment un si bémol au lieu d'un si bémol, et ça change tout, et ça devient du plaisir un peu comme du chocolat, si vous voulez. À 90%, et c'est un petit détail, mais qui fait qu'on bascule dans quelque chose de différent, en effet.
Alors, il faut qu'on parle aussi avec vous, François Pachet, des outils à venir pour faire la musique et comment comprendre comment elle fonctionne, c'est une chose, mais savoir comment on fera celle de demain, c'en est une autre. Je vous propose, encore un retour en arrière, d'écouter le compositeur Pierre Petit, qui a été pendant 40 ans le directeur de l'École normale de Paris. C'était en 1967.
La musique, j'espère, ne sera pas triste. J'espère également qu'elle saura se libérer totalement de la recherche. La recherche est nécessaire, mais la recherche pour la recherche n'est pas suffisante. Et il faut espérer que, de cette recherche, les musiciens sauront l'utiliser, les moyens qui leur seront mis en main, afin que le nouvel ordre puisse vivre. Il faut espérer également que les musiciens continueront à utiliser leur oreille comme pierre de touche, car trop souvent, l'abus de la recherche laisse les musiciens assez loin du résultat purement auditif. Et c'est leur esprit plus que leur oreille qui fonctionne.
Pierre Petit, la musique de demain, c'était en 1967 sur France Culture. On a l'impression, cette opposition, un plaire ou réfléchir, c'est un petit peu aussi ce que vous avez suggéré une de vos professeurs de lycée.
Oui, oui, ça c'est un grand mystère, parce que en effet, j'ai toujours pas de réponse à ce. Enfin, la scène c'était que en effet, à la classe de musique au lycée en sixième, je crois, où un élève tout d'un coup dit, mais c'est quoi cette musique baroque que vous nous faites écouter? Moi, je voudrais écouter, je sais pas à quel groupe, à les modes. C'était pas les Beatles, mais ça y ressemblait. Et la professeure dit, mais ça c'est pas de la musique, ça c'est pas de la vraie musique, c'est la musique pour plaire. Alors moi, c'est une remarque qui m'a frappé, qui continue. Mais qu'est-ce que ça serait de la musique qui serait pas faite pour plaire? C'est très bien ce qu'il dit Pierre Petit là. C'est exactement ça. C'est-à-dire que pour plaire, il ne s'agit pas d'avoir un point de vue mercantile, mais tout de même, la musique doit procurer du plaisir. Qu'est-ce que c'est la différence entre procurer du plaisir et plaire? Pour moi, ça reste très très énigmatique cette position qu'il faudrait que la musique ne plaise pas, il faudrait qu'elle ait des qualités intrinsèques. Mais alors lesquelles? En effet, donc non, c'est très bien ce qu'ils disent.
Eh bien, comment faire la musique de demain? Peut-être avec l'intelligence artificielle. Exemple. It's on a sinking, the cattle go devils go down. It's rattling, those wings are down. Those wings are down. It's high, it's on a sinking, the cattle go devils go down. It's rattling. Ballade of the Shadow, la ballade de l'ombre qui ouvre le disque Hello World, paru sous le nom collectif de Skyge, S-K-Y-G-G-E, premier album de musique pop réalisé avec l'aide d'une intelligence artificielle. Vous pouvez nous dire ce qu'on entend ici, François Pachet?
Oui, c'est Skyge, c'est le nom de scène de l'artiste principal qui est Benoît Carré, un compositeur qui a par ailleurs écrit beaucoup de chansons en France pour Lily Cube et pour bien d'autres. Oui, ben, et Benoît, c'est un très bon interlocuteur. On a des goûts très similaires et surtout, on a en commun l'idée qu'une chanson, ça doit dire quelque, enfin, il doit se passer quelque chose. On a cette expression qui veut rien dire, mais que s'il se passe rien, c'est que c'est pas bon. Et donc, on a voulu, dans cet album Hello World, utiliser l'intelligence artificielle, pardon, non pas pour faire de la musique automatique, c'est exactement tout ce qu'on déteste, mais pour aider des compositeurs à faire des chansons dans lesquelles il se passe des choses un peu à la manière de ce que j'ai raconté dans le livre, dans mes souvenirs, où j'aime une chanson parce que voilà, il se passe quelque chose à un moment donné ou à plusieurs moments. Et donc dans cette utilisation de l'IA qu'on a voulu disons démontrer, on a systématiquement cherché en effet non pas des accidents mais des inventions mélodiques, harmoniques, timbrales, etc. Et par exemple, dans cette chanson Ballad of the Shadow, dans la mélodie, il y a des successions de notes qui sont, si vous voulez, c'est pas de la musique expérimentale, mais c'est très inhabituel. Très inhabituel, en particulier les grands intervalles. C'était Julien Clerc qui disait une fois que c'est très difficile de composer une chanson avec des grands intervalles. Non pas que ce soit difficile à chanter nécessairement, mais c'est parce que spontanément, c'est pas ça qu'on a envie de faire. On a envie de des petits intervalles. Et donc là, on s'est dit, voilà, essayons d'inventer, d'innover aussi sur le plan mélodique. Bon, là, dans cette chanson, il y a des innovations mélodiques et aussi timbrales. Le son, on a utilisé des sons qui étaient tout à fait inhabituels. Donc, il y a beaucoup de mais on a voulu, encore une fois, montrer que l'IA, c'était pas un moyen d'automatiser, de réduire, de niveler, mais exactement le contraire. Un moyen de créer de l'inventivité.
Alors, comment est-ce qu'on programme une intelligence artificielle qui va nous aider à faire de la musique?
Oh, ça, c'est compliqué, mais on est parti au départ d'un, disons, c'est une question un peu traître. C'est très difficile à répondre, en fait. Parce que, premièrement, ce qui s'est passé, c'est que, toutes les chansons d'album, les 15 chansons d'album, elles ont toutes quelque chose d'intéressant, et la plupart sont ce qu'on appelle en anglais des earworms, des vers d'oreille. C'est-à-dire que quand on les écoute 2-3 fois, elles restent dans la tête.
Oui, mais ça, c'est le résultat.
C'est le résultat.
Moi, je vous demande avant.
Oui, mais justement, j'essaie de noyer le poisson. Non, mais en effet, première chose, c'est qu'on a des earworms. Ça, c'était quelque chose qu'on voulait et on s'est aperçu qu'on avait ça. La deuxième, après, d'un point de vue technique, si vous voulez, c'est encore un débat aujourd'hui. Les choses techniquement sont pas très claires, mais je vais essayer de dire ce qui se passe. Grosso modo, vous avez plusieurs types de modèles informatiques de la musique qui sont plus ou moins puissants. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de deep learning, de réseaux de neurones, etc. Et ce qui se passe, c'est que si vous avez des modèles très puissants comme ceux de qui sont développés aujourd'hui, au fond, votre système, il va être très très bon pour imiter. Il va être un formidable imitateur, mais il va pas tellement inventer de choses nouvelles. Si vous avez un modèle qui est moins bon, il va moins bien imiter, mais il va être capable d'inventer des choses nouvelles. Donc tout le problème, c'est de trouver de mettre le curseur, si vous voulez, où il faut, et de pas nécessairement regarder les modèles les plus forts du point de vue imitatif. Mais ça, si vous voulez, je peux pas en parler de manière très précise encore. Ce sont des sujets de recherche qui sont ouverts, mais il paraît assez clair que les meilleurs modèles du point de vue imitatif ne sont pas forcément les plus intéressants du point de vue créatif.
On va voir ce qu'en a pensé un musicien, Médéric Collignon.
Je me suis retrouvé avec un technicien compositeur, vraiment le gars assez incroyable qui se mettait à me montrer tous ces écrans, toutes ces machines, toutes ces possibilités et tout. Et il m'expliquera en détail ce que Flow peut faire, peut nous donner. Flow Machine, c'est en fait une... je viens de voir un camion de poubelle passer, vous voyez, et j'imagine toutes ces musiques d'un tel, d'une telle, qu'on fait pénétrer dans le camion, que l'on mixe. Flow, c'est ça, c'est une sorte de machine à laver à musique, et il en sortira une solution. Si ça ne vous plaît pas, une autre solution. C'est-à-dire, vous avez une mélodie qui va vous être donnée, il y aura une harmonie en relation avec cela, donc une abscisse, une ordonnée, en fait, compositionnelle, et à partir de là, vous habillez votre cet objet. Donc en fait, c'est assez étrange parce que là, j'avais donc choisi une vingtaine de morceaux de Prince, précisément. Le technicien donc a rentré ces éléments au sein de ce programme, et j'en ai vu vraiment, j'ai ressenti. C'est pas seulement intuitif, mais j'ai ressenti vraiment des grooves que j'avais vécu quand j'écoutais tel disque de Prince. C'était vraiment étrange, mais il s'interpénétrait quoi. Tu as la première mesure, la deuxième mesure, puis paf, la cinquième mesure d'un autre morceau, puis hop, tu repasses à la dixième. c'est assez étrange ce qui se passe, quoi. C'est une sorte de puzzle, ça désarçonne. Donc on écoutera une version, une harmonie qui est un peu penaude pendant longtemps, puis tout à coup elle devient complexe à la fin. C'est pas, côté chanson, c'est pas très très viable, quoi. Donc, comment dire, c'est une sorte de magnifique machine à laver pour moi. Donc, intelligence artificielle, oui, artificielle, parce qu'il a fallu, nous, déjà choisir une des meilleures versions de Flow. Ensuite, tu joues à partir de ça, la basse, l'humain reprend le pouvoir, quoi, reprend l'air, reprend la manne.
C'est parti.
C'est parti, c'est parti. Un virage, pas mal. Oh, oh. Da, la, la, di, do, di, di, la, da, da. Retire cette croche là. Ouais. Improvisateur que je suis, puisqu'en fait je suis plus là dans cette relation improvisateur. Moi, je suis jazzman, mais j'ai fait du classique. Bon, nanana, mais ça, ce sont des idiomes, ce sont des objets en fait que moi aussi je manipule avec mon intelligence artificielle. Mais je suis improvisateur, c'est-à-dire que je suis très curieux de jouer avec Flo, de jouer avec un G4 comme à l'époque à l'IRCAM, comment c'était. Au max, etc., etc. On va ressentir une autre façon que voyage l'information qui sera malaxée par filtrée et proposée par la machine proposée. Voilà, c'est des 1, des 0, et puis il en sort une fraction, et c'est juste le fruit du temps, du moment, du hasard qui est que vous choisissez. J'ai l'impression que ce moment-là, c'est le récepteur qui est plus important que la machine qui vous envoie une information. Et dans chaque situation, que ce soit au max ou là aujourd'hui Flow Machine, j'ai l'impression que je suis ce que je suis, c'est-à-dire j'invente encore, je réagis, donc je crée, donc la machine n'a pas pris ma place. Et ça, c'est important. Qu'elle participe, qu'elle soit complice à nos folies, à nos délires, à nos désirs, c'est fantastique. Mais j'espère que ça n'ira pas trop loin. Que ça aille plus loin, bien sûr, je suis toujours curieux, mais que ça n'aille pas, que ça remplace pas l'humain. C'est ça que je veux dire, qu'on soit complice. Comment dire, et même il y a des paradoxes. Par exemple, moi j'ai un souvenir de ce que l'on a fait donc, chez Sony sur une première version de Cake Woman. Eh bien, à l'époque, on avait à la voix des samples de voix d'hommes, de femmes venant d'ici ou d'ailleurs et tout et tout. Et donc on voyait que c'était la machine qui proposait des placements, une organisation, un arrangement. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment sexy, vraiment génial. C'était troublant. Comment elle faisait, même avec ma propre musique du dernier projet que j'ai ingéré, oui, mais avant, j'ai inséré des morceaux de mon disque à l'intérieur de ce projet-là pour voir ce que ça allait donner. Donc j'entends les vocodeurs de tels morceaux froissés, replacés et restructurés par rapport à la grille donc, qui a été choisie par le programme. Ça m'a, mais dans la tête, c'est génial, c'est complètement génial.
C'est vraiment génial, Frédéric Collignon.
Bah oui, il est très enthousiaste, il a raison. Non, mais ça... Il a tort d'avoir peur, hein, parce que...
Mais ça revient tout le temps, ça. Ouais. Dès qu'on parle d'intelligence artificielle, il y a cette crainte vraiment permanente de quelle est notre place à nous par rapport à la machine, et bien évidemment, c'est nous qui gardons le contrôle, donc tout va bien.
Oui, tout va bien, oui. Ouais, ça, en plus, il a joué avec la machine, donc il a bien vu que comme il le dit d'ailleurs très bien lui-même, ça au contraire, ça enrichit le processus créatif de humain, puisque l'homme, on a juste plus de possibilités, quoi. Mais il reste encore, il l'a dit très bien d'ailleurs, premier acte créatif avec une IA, c'est de choisir ce qu'on va lui donner à manger à la machine. Et ça, en fond, c'est un acte créatif, parce qu'il y a d'abord des milliards de possibilités, et c'est ce choix-là qui va ensuite être déterminant. Ça, c'est l'homme qui le fait. Alors, certes, la machine pourrait le faire en disant, par exemple, au hasard, en prenant au hasard n'importe quoi. Mais si on prend au hasard n'importe quoi, il va en général rien se passer d'intéressant.
Mais est-ce qu'une des perspectives de l'IA, de l'intelligence artificielle, ça n'est pas, à défaut de composer, ou en tout cas avec d'autres musiciens, mais aussi de nous proposer, parce qu'on a déjà une base de données énorme, on a enregistré, la musique enregistrée, ça représente beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que l'avenir musical pour l'intelligence artificielle, ça va pas être de nous proposer les meilleures musiques, d'être le plus à l'écoute de ce qu'on aurait envie d'entendre?
Ça existe déjà, tout ce qu'on appelle la recommandation automatique, plus ou moins automatique. Donc vous aimez ceci, vous aimez cela, on vous propose des choses. Ça, je pense que ça a beaucoup.
Oui, mais c'est par affinité, par des classements.
Oui, il y a plein de techniques possibles, mais disons ça, c'est une problématique. Hein. C'est comment en effet proposer ce qu'il y a de plus potentiellement intéressant dans une base gigantesque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à disposition facilement des dizaines de millions de morceaux de musique. Donc c'est gigantesque. Mais là, Flow Machine, c'est plutôt pour la création. Mais si vous voulez, en vous écoutant, je me disais, mais au fond, il y a une question de base à laquelle personne n'a jamais su répondre, c'est pourquoi les êtres humains continuent à vouloir créer la musique nouvelle. C'est mystérieux, parce qu'on pourrait très bien dire, mais écoutez, il y a Mozart, il y a Bach, il y a les Beatles, il y a les Pink Floyd, il y a Dieu sait quoi, ça suffit. Et il y a tellement de titres, de toute façon, qu'on n'écoutera pas dans une vie, mais non. On veut quand même en créer des nouveaux. Donc je pense que, et ça on sait pas pourquoi, il y a un moteur humain à création qui est là, et l'IA, ça va servir à rendre ce moteur plus efficace, plus rigolo, plus satisfaisant, plus jouissif, mais rien de plus.
Tout a une fin. Après 18 mois de vagabondage à travers l'histoire de la musique, pour y découvrir sous les tendances, les langages, les moyens d'expression les plus divers, la permanence d'une inspiration romantique plus ou moins acceptée ou reconnue pour telle, il nous faut aujourd'hui en venir à une conclusion générale et à une vue sur l'avenir.
Et Continuons Musique touche à sa fin pour ce soir. Merci François Pachet d'être venu nous parler de cette histoire d'une oreille qui est éditée chez Buchet Chastel, un livre à lire, à écouter, parce qu'il y a aussi un site, hein, www.histoiredunoreille.fr, avec toutes les musiques que vous mentionnez, tous les extraits musicaux sur lesquels vous attirez l'attention. C'est passionnant à lire et à entendre. Merci à Médéric Collignon de nous avoir reçus pour évoquer sa collaboration à l'album Hello World, premier album avec l'aide d'une intelligence artificielle. Album pop. Je signale le prochain concert de Médéric Collignon avec le quintet Jus de Box. Ce sera à l'Auditorium de Radio France samedi 14 avril à 20h30 dans le cadre du festival Jazz à Vif. À signaler aussi cette exposition Artistes et Robots dont France Culture est partenaire, exposition qui se tient au Grand Palais, qui est passionnante. Jusqu'au 9 juillet, vous pourrez voir des œuvres de Yanis Xenakis, de Namjoon Paik, la belle et vertigineuse et très immersive installation de Ryoji Ikeda. Voilà, l'exposition se termine avec les Daft Punk et leur technologique. Toutes les informations et la programmation musicale sont à retrouver sur la page de l'internet de l'émission Continent Musique sur franceculture.fr, ainsi que la réécoute et le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est gratuit, vous recevrez tout. Continent Musique vous est proposé par Mathieu Conquet avec la collaboration de Pascaline Bonnet, réalisation Olivier Guérin. À la prise de son ce soir, Julien Douminc et Nicolas Slimani. Merci à Annie Lozana, Delina, Antoine Vios de la discothèque de Radio France. Les programmes continuent, restez en bonne compagnie sur France Culture. Bonsoir.